pour le public français et américain et pour les auditeurs de France Inter.
Patti Smith en concert au Webster Hall de New York. Une soirée exceptionnelle à suivre sur France Inter vendredi à 20h. France Inter, la différence.
Et pour l'heure sur Inter, c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Demain c'est la rentrée, je suis institutrice et j'ai le cœur battant comme les enfants à l'idée des nouveaux visages et des nouveaux enfants que je vais trouver et que je vais rencontrer. En hommage à tous ces enfants de toutes sortes, j'aimerais bien qu'on entende les petits-enfants de verre en hommage aussi à Le Prest qui nous a quittés il y a une quinzaine de jours. Parce que des petits-enfants de verre, j'en ai plein la classe. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel, Joël de Vendée. Je voulais vous dire qu'en ce jour de rentrée scolaire, tous les enseignants ne passent pas forcément une bonne rentrée scolaire. En effet, suite à de nombreux autres, des enseignants sont sanctionnés par ce ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais citer le cas de Philippe Vin, professeur d'école à Bozy, en Loire-et-Cher, déplacé d'office par son inspectrice d'académie, ou François Lemenaez, professeur d'école à Sainte-Lumine-de-Clisson, en Loire-Atlantique, menacé à plusieurs reprises de commission disciplinaire par son inspecteur d'académie et privé d'intervention à l'UFM des Pays de la Loire où il était formateur. Alors ce sont des enseignants méritants, exemplaires, appréciés tous dans leur village respectif, mais engagés dans des mouvements pédagogiques. Ils sont sanctionnés arbitrairement, non pas pour leur travail, mais pour des prétextes administratifs, parce qu'ils s'opposent à l'utilisation que font le ministère des résultats des évaluations CM2, ou parce qu'ils ne renseignent pas le logiciel bas élèves qui sert à afficher les élèves. Ces enseignants représentent-ils un tel danger pour l'école de la République et pour les enfants pour justifier des sanctions démesurées et arbitraires, prises au mépris de tout cadre réglementaire ? Alors le ministre Châtel, en ce jour de rentrée, s'honorerait s'il levait aujourd'hui toutes les sanctions qui pèsent injustement sur ses enseignants. Il ferait preuve là d'une belle leçon de morale. Bonne journée et belle rentrée à tout le monde.
Qu'est-ce que tu dirais si une petite voix te disait « Hé, pourquoi ne places-tu pas tes milliards dans les paradis fiscaux si tu plaçais tes actions uniquement dans des entreprises qui délocalisent ?» Alors là, franchement, je ne vais pas m'amuser à ça. Nous, les milliardaires, nous sommes des patriotes et nous voulons sauver l'économie de la France. Nous pensons aux pauvres et aux chômeurs. Ceci n'est pas un message du gouvernement.
Bonjour Stéphane de Coulommiers. Merci à Sophia Aram ce matin à 9h d'avoir pu s'exprimer en notre nom parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol de DSK manger une pizza, DSK prend l'avion, DSK où ça porte.
Oh, ça c'est dommage, Jacques Chirac ne pourra pas assister à son procès. Moi ça me rappelle Papon, ça me rappelle Pinochet, ça me rappelle Klaus Barbie, ça fait... Ouais. Alors il est atteint d'endosoniosi. Oh là 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 là. Moi j'avais jamais entendu parler de cette maladie. Je crains d'ailleurs que ça se répande et puis que toute la France soit atteinte de la même maladie et oublie l'année prochaine d'aller voter par exemple et puis ne se rappelle plus effectivement de rien. Voilà, c'est qui me fait peur surtout. Hein. Bon, je vous souhaite une bonne journée.
400 000 manifestants en Israël contre la politique ultralibérale de ce pays. Avec entre autres ce slogan « Les marchés sont libres, pas nous ». Bravo, c'est comme ça qu'on vous aime. Marie-Paul de Villejuif. Ciao.
Salut Daniel, je t'appelle pour te dire que j'écoute ton émission tous les jours. Et je suis un fidèle auditeur et malgré tout, je suis quand même de droite. Et je veux dire, on peut être de droite et puis aimer Daniel Mermet. On peut aimer France Inter. Et puis on peut aussi aimer le service public. Donc c'est ça que je voulais te dire, c'est que on n'est pas tous des pourris, quoi. Bon, à droite, on est aussi à cœur. Et que la preuve, j'apprécie beaucoup tes émissions, je trouve que tu as souvent raison. Et je te souhaite de continuer vraiment comme ça, quoi, et pourvu que ton émission dure encore très longtemps. C'était Stéphane de Douai. Ciao, ciao.
Eh ben merci Stéphane et merci tout le monde. Merci les AMG, auditeurs, auditrices modestes et géniaux et géniales. Aujourd'hui, ça s'appelle Paris pas perdu. Paris pas perdu. Ça veut dire quoi ? Comment on écrit perdu dans Paris pas perdu ? Si on met un S à perdu, c'est les pas perdus. OK ? Les pas perdus. Mais si on écrit, si on met pas d'S, c'est Paris n'est pas perdu. Paris, c'est pas perdu. Et on va se balader dans cette hésitation. entre les pas perdus et est-ce que c'est foutu Paris, hein? Est-ce que c'est foutu Paris? Pourquoi on fait ça? Parce que ben voilà, on rentre nous autres les parigots pour une fois on va faire du parisianisme. Oui oui, c'est vrai. Eh ben on rentre à Paris et on revoit à Paris, mais il reste encore des beaux jours, de longues et belles journées. Pourquoi faire? Pour se balader dans Paris et s'y perdre, sans doute, mais on va pas s'y perdre tout à fait aujourd'hui parce qu'on va se balader avec un expert en déambulation érudite. Et l'expert en déambulation érudite, c'est Éric Hazan. Notre ami, éditeur, écrivain, etc., qui, vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, a publié « L'invention de Paris ». Il n'y a pas de pas perdu, disait-il en sous-titre. Un magnifique livre qui a eu beaucoup de succès parce que c'était absolument génial de se balader avec lui à travers ce livre et à travers Paris. Et puis il a fait une suite qui s'appelle « Paris sous tension ». Il a réécrit un certain nombre de chapitres autour de l'agrandissement de Paris. Paris, c'est une ville-oignon qui s'est agrandie et qui va s'agrandir encore avec le Grand Paris. Alors, est-ce que Paris s'est foutu? Est-ce que Paris s'est perdu? Ou bien au contraire, est-ce que Paris ressemble à la façon dont là regarde Éric Hazan? C'est ce qu'on va savoir d'ici à 16h dans ce reportage de Charlotte Perry. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut à tous les AMG. Le repère de Montreuil reprendra le mardi 6 à 19h au magique Place de la République. Qu'on se le dise.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. C'est la reprise du Café Repère de Saint-Péret en Ardèche. Ce soir, lundi 5 septembre, à partir de 20h et toujours à l'hôtel Badet, on recommence, on parlera de l'actualité, des vacances et de l'année qui nous arrive. Je vous attends nombreux, c'était Cyril d'Ardèche, à ce soir, ciao ciao.
En montant vers le Sacré-Cœur, je suis une belle inconnue. Un grand merci à toi Seigneur de me faire suivre un sacré cul. C'était le retour du poète Poussif. Salut.
Grâce à la Fédération CGT de la Métallurgie, à son Institut d'Histoire Sociale, au Comité d'Honneur pour sa reconnaissance, grâce à Michel Etiévan, son biographe, au journal L'Humanité, à cette émission, grâce à l'obstination de François Ruffin et de nombreuses municipalités, le ministre communiste Ambroise Croizat, acteur de toutes les conquêtes sociales de 1936 et de toutes les créations sociales de 1945 à 1947, oubliées de la mémoire collective, est enfin dans le Larousse et dans la prochaine édition, le Robert. Régis de Nîmes.
Dans les livres d'histoire, on n'insiste jamais sur les moments où la bourgeoisie préfère passer à l'ennemi plutôt que de risquer une insurrection populaire.
Paris, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus.
C'est pour ça qu'il est important que l'insurrection qui vient soit victorieuse. Parce que tant que tout ça restera aux mains de promoteurs, de sociétés civiles immobilières, de sociétés d'économie mixte, tout ça, on aura ça. Ce merdier où au cœur duquel nous nous trouverons là, ici.
Ça, c'est tout sauf une ville.
Oui, c'est tout sauf une ville.
Paris, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus.
L'indignation est inutile. Hein. L'indignation, c'est pas un sentiment politique, l'indignation. C'est trop facile, l'indignation. Il faut simplement faire ce qu'il faut pour que ça ne survienne pas.
Et là, on a aussi beaucoup parlé de la Révolution française. Pourquoi c'est encore important aujourd'hui de parler de la Révolution française?
Parce qu'elle n'est pas terminée.
Paris, quand tu es debout, quand tu es debout, moi je t'aime encore.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Massif J'y suis, avec Charlotte Perry et Eric Kazan. Paris, sous tension.
Les vacances, fini la mer, la plage, les grasses matinées, l'oisiveté. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Retour à Paris, ses touristes, ses badauds. Ce matin, il n'y a plus de café, il n'y a plus de lait dans mon frigo. Et j'ai vu que la dernière épicerie de ma rue avait fermé pendant l'été. Elle a été remplacée par une boutique de fringues chères à la mode. Mais allez, haut les cœurs, aujourd'hui il fait beau, on va sortir se balader, on va aller revoir Paris. Mais on va revoir Paris autrement, avec Eric Kazan, fondateur des éditions La Fabrique et fin connaisseur de Paris. Allez, c'est parti. Mon micro, mon sac et direction la place du marché Saint-Honoré. Dans le centre de Paris, entre l'Opéra et les Tuileries, où Eric Kazan nous a donné rendez-vous pour commencer cette balade à travers Paris.
La plupart des hommes se promènent à Paris comme ils mangent, comme ils vivent, sans y penser. Oh, errer dans Paris, adorable et délicieuse existence. Flâner est une science, c'est la gastronomie de l'œil. Se promener, c'est végéter, flâner, c'est vivre. Ainsi parlait, écrivait Honoré de Balzac dans La physiologie du mariage. Vous avez compris, on va se balader dans Paris. Et vous vous dites, on va déplorer, on va nostalgiser, très probablement. Et on ne sera pas les premiers, le même Balzac disait, hélas, le vieux Paris disparaît avec une effrayante rapidité. Et Baudelaire, quelques années plus tard, traversant le quartier du carrousel en démolition, disait « Le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville, change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. » Et on pourrait continuer, et on a continué sans cesse à déplorer le Paris d'hier. Et je dois dire que pour ma part, hélas, je fais partie de ces nostalgies. Cette nostalgie s'empare facilement de quelqu'un dans mon genre qui vient à Paris depuis fort longtemps. Eh bien, c'est pas du tout le point de vue d'Eric Kazan. C'est pas du tout son point de vue, cet expert en débulation érudite, comme dit son éditeur, à travers son premier livre, énorme bouquin, magnifique, L'invention de Paris, et à travers ce qu'il dit aujourd'hui de Paris. Lui qui sait lire Paris. La moindre infractuosité a un sens pour lui, un carrefour, un virage, une séparation. Deux rues, une muraille, tout ça, ça fait sens. Il voit les traces du passé, de l'histoire. Et quelle histoire il voit spécialement? Mais l'histoire des luttes, bien évidemment. L'histoire de cette ville en proie depuis si longtemps et au moins deux siècles à des luttes, à des guerres civiles depuis la Révolution française jusqu'à il y a peu encore. Il y a peu encore, oui. Bien sûr, Paris s'embourgeoise horriblement, bien sûr. Le centre de Paris ressemble à une boutique duty-free d'aéroport de plus en plus. Bien sûr, les quartiers populaires se réduisent comme peau de chagrin. Mais dans les yeux d'Éric Cazan et à travers la mémoire qu'il a de l'histoire de Paris et cet agrandissement de Paris, ce grand Paris en perspective, eh bien, il voit là le champ, le terrain d'une lutte sociale qui n'en finit pas et qui est probablement pas terminée, contrairement à ce que des nostalgiques dans mon genre pourraient supposer et évidemment redouter, bien sûr. D'où cette balade jusqu'à 16h dans la basse où j'y suis, Paris, pas perdu.
Messieurs, dames, il reste encore de la place, on ne se bouscule pas. Eh oui. Venez voir le grand musée parisien, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors allons-y, on approche, il reste encore quelques places devant, mais on ne se bouscule pas, s'il te plaît, toi devant, tu restes tranquille. Merci, allons-y, c'est reparti. Venez voir les Parisiens en sirop musée Grévin. Venez voir les statufiés que l'on peut photographier. Venez voir le jardin Bobo, visiter nos beaux ghettos. Paris, un grand Disneyland, les touristes en redemandent. Paris, musée. Paris, devient un musée. Admirez les vieilles pierres, les vitrines sous réverbère. Venez voir Paris frivole qu'on a plongé dans le formol. Jetez-lui des cacahuètes sur les podiums de la mode. Et venez faire vos emplettes, Paris enlèvera sa robe. Paris, musée. Paris, devient un musée. Rien à craindre, tout est sécu. Un poulet à chaque coin de rue. La vieille dame ne boit que de l'eau. Bienvenue à la Thalasso. Venez tous faire la fête à la maison de retraite. Une ambiance funéraire dans la grande ville lumière. Paris, musée. Paris, devient musée.
Donc là, on se trouve au Rubis. C'est un troquet juste à côté de la place du marché Saint-Honoré. On est presque étonné de trouver encore ce genre de troquet dans ce quartier où se côtoient plutôt les lounge bars et les boutiques ultra chic.
Non, là, c'est un bistrot qui n'a pas changé depuis que je le connais, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans. Mais il doit dater de bien avant. Le décor est assez nettement 50.
Comment vous le connaissiez, ce café?
Oh, piéton de Paris, quand même. Ouais. Puis en plus, les éditions La Fabrique ont été, au début, rue Saint-Roch, donc tout près d'ici. Donc c'était un peu notre cantine, quand il y avait de la place.
Piéton de Paris. Piéton de Paris, il l'a dit rapidement, Éric Cazan. Piéton de Paris, oui. Il fait partie de ces arpenteurs de Paris. Des livres sur Paris, des ouvrages, des monographies sur Paris, la bibliothèque de l'histoire de Paris. Paris est un objet, depuis fort longtemps, d'observation, d'études, de toutes sortes, à travers des angles différents. Et ça continue. Il faudrait plusieurs vies pour lire tout ce qui s'est dit et écrit sur Paris. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter, bien évidemment, parce que c'est un plaisir de décrypter, de comprendre ce qui se passe sous, ce qui s'est passé et ce qui se prépare aussi dans une ville comme celle-là, sous ces oripeaux bobos embourgeoisés. Et attention, il y a toujours des taupes dans les terrains de golf. Et oui, et une taupe, ça fout fou un terrain de golf en l'air. Faire très attention à ce qui se fomente dans le souterrain des choses. En tous les cas, on est là sous cet endroit pas forcément très palpitant, qui est le marché Saint-Honoré. Palpitant, vous allez voir.
On parlait de la rue du marché Saint-Honoré. En fait, en 1946, Il y avait un conseil municipal socialo-communiste après la libération. Et la place s'est appelée Place Robespierre. Jusqu'en 50. En 50, le conseil municipal est passé à droite. On a chassé ce personnage détesté par la droite. Et pas seulement. Alors pourquoi Place Robespierre ? C'est parce que cette place occupe le terrain du couvent des Jacobins. Toute la place était occupée par le couvent, le cloître, les jardins, l'église. Et quand les femmes de Paris sont allées rechercher le roi à Versailles en octobre 1789 et l'ont ramené à Paris, l'assemblée l'a suivi. Et les clubs qui s'étaient formés à Versailles, il y en avait un qui s'appelait le club breton, parce que c'était pas mal des bretons, ils étaient assez avancés à ce moment-là, enfin encore aujourd'hui, hein. Et ce club breton est allé voir le prieur des Jacobins, qui était un de ces ecclésiastes progressistes, et qui a accepté de louer pour les réunions du club, d'abord la bibliothèque, puis c'est devenu trop petit, alors toute la chapelle, et c'est là qu'ont eu lieu les fameuses séances du club des Jacobins, qui ont duré de 89 jusqu'en 94. Parce que à la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, c'est-à-dire juillet 94, les Thermidoriens, eux, ils étaient très anti-jacobins. Et finalement, le couvent a été rasé comme un repère de bandits, comme disaient les Thermidoriens. Ce repère de bandits a été rasé et on a fait dessus un marché. Et ce marché a été construit par un architecte dans les années 1810. Un architecte qui s'appelait Molinos, qui avait fait un très joli... Enfin, je ne l'ai jamais connu, mais j'aurais pu d'ailleurs, parce qu'il a duré jusque dans les années 1950. Un marché avec quatre petits pavillons très jolis, une fontaine au milieu. Alors, pourquoi diable a-t-on démoli ce marché ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on a construit quelque chose, alors que j'ai bien connu, que vous avez peut-être connu aussi d'ailleurs, c'est une espèce de blocos en préfabriqué, où il y avait une caserne de pompiers, un commissariat, au milieu de la place. Mais au fond, c'était très très moche, mais on voyait que c'était provisoire, que ça ne durerait pas, donc au fond, on y était habitués, on n'était pas tellement gênés. Alors que le bâtiment actuel est encore un de ces crimes architecturaux des années... la fin du postmoderne, disons, c'est un bâtiment des années 80 qui est absolument absurde. C'était sponsorisé par une banque, comme de juste. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des banques et des assurances et autres sympathiques compagnies qui occupent cet horrible bâtiment, qui dénature, qui gèle la place. Voilà. Ça n'a aucun sens.
Oui, allez-y, prenez. Qu'est-ce que je vous commande, monsieur ?
Il y a un œuf maillot et un peu de tomates, c'est des tomates et des œufs maillots.
Salade de tomates, un œuf mayonnaise.
Voilà.
Un œuf mayonnaise, hein, une salade de tomates, une. Oui. Alors, là, on est sorti du bistrot,
voilà.
Et on se trouve devant ce bâtiment transparent.
On voit l'idée. L'idée, c'était de se dire, on va faire quelque chose de complètement transparent. Énorme, c'est sûr, mais comme c'est transparent, on ne le verra pas. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas vraiment transparent. C'est du verre, mais on ne voit pas à travers, finalement. On voit les bureaux, les architectes sont des gens à égo dilaté. Et il faut qu'ils fassent des gestes, des démonstrations de puissance, des manifestations spectaculaires. Qui réfléchissent en se disant, mais qui va être là ? À quoi ça va servir ? Comment faire que ça s'intègre bien dans l'atmosphère, dans l'esprit du lieu ? C'est toujours l'esprit du temps qui l'emporte sur l'esprit du lieu.
L'esprit du temps, c'est-à-dire
l'époque, les banques triomphantes des années 80 l'emportent sur cette vieille place, ce vieux marché, ce souvenir des Jacobins. Tout cet endroit qui est, au fond, très parisien, très, très inscrit dans l'histoire de Paris, et que ce bâtiment horrible gèle totalement. Et On peut dire qu'une grande part de ce qui s'est passé pendant la Révolution s'est joué là. Les deux grandes arènes politiques, c'était la Convention qui était là-bas, au bout de la rue, hein, dans le jardin des Tuileries. D'abord dans le jardin, puis ensuite dans le château des Tuileries, après que Louis XVI ait vidé les lieux. Donc la Convention était dans le château lui-même, dans une salle de théâtre qui s'appelait la salle des machines. Enfin, c'était tout près. Donc ce quartier est imprégné d'histoire révolutionnaire. Et Robespierre habitait rue Saint-Honoré, chez le menuisier Duplay, tout près d'ici, il habitait là. Il y avait deux endroits dans Paris, deux endroits qui étaient vraiment imprégnés, où les souvenirs de la Révolution sont encore aujourd'hui très présents pour ceux qui s'y intéressent. C'est ici, et puis le carrefour de l'Odéon, avec la maison de Danton, le couvent des Cordeliers, qui était le club rival des Jacobins, plus populaire, plus parisien, alors que les Jacobins avaient des filiales dans la France entière, plus de 1000 sociétés affiliées aux Jacobins. C'est pour ça, du reste, quand on dit le centralisme jacobin, les Français ils disent « Ah, la France, c'est jacobin !» Pour dire « C'est hyper centralisé !» C'est tout à fait erroné. Parce que, certes, la société mère était ici, là où nous sommes, là où nous tenons, mais les 1000 sociétés filles, elles ne recevaient pas des ordres, elles donnaient des renseignements et elles faisaient des remontrances et les sociétés envoyaient des délégations à Paris en disant « Les gars, là, ça ne va pas du tout ce que vous faites. » C'était complètement... Les choses se faisaient dans les deux sens. Donc, dire que... Disons, les Jacobins, bien sûr, ça existait, mais le jacobinisme, c'est une invention des thermidoriens. Pour dire, c'est un repère de bandits et on va raser le couvent et... éradiquer la mémoire. C'était un foyer formidable. Et dessous, dans la cave, au-dessous de là où il y avait les séances des Jacobins, il y avait une société qui s'appelait la Société Fraternelle des Deux Sexes, qui était une société d'éducation populaire, qui tenait ses réunions là, en dessous, sans relation. Hein. Enfin, c'était un foyer, quoi. C'était quelque chose d'assez magnifique.
Et tout ça a été rasé
La chute de Robespierre, il y a eu une réaction féroce. On vit encore gouverné par des thermidoriens aujourd'hui. Les gens qui nous gouvernent sont des thermidoriens, clairement. Des ennemis de l'égalité, des ennemis de la Révolution, des ennemis de l'égalité, des ennemis de la pensée subversive... Vraiment, avec la destruction du couvent en 1795, le quartier est stérilisé, révolutionnairement parlant.
Plus rien à en attendre et de nos jours...
Rien n'est irréversible.
On quitte la rue du marché Saint-Honoré et on arrive sur la rue Saint-Honoré elle-même. Et là, on a aussi beaucoup parlé de la Révolution française. Pourquoi c'est encore important aujourd'hui de parler de la Révolution française ?
Parce qu'elle n'est pas terminée. Les questions que la Révolution française a soulevées restent actuelles. La question de l'égalité, qui était centrale. Aujourd'hui, c'est gommé, ça. On essaye de parler de tout sauf de l'égalité. Si aujourd'hui vous dites on se bat pour l'égalité, on vous regarde un drôle d'air. À la rigueur, équité, dont on ne sait pas bien ce que c'est. Équité, ça va. Équité, équitable, ça veut dire ça. Bon, ça va, quoi. Mais la passion de l'égalité, c'est vraiment quelque chose qui sous-tend l'histoire de la Révolution. Et qui aujourd'hui encore est un problème très litigieux. Donc il y a beaucoup de choses comme celle-là. La question de la représentation, la question de la démocratie directe, toutes ces questions-là elles n'ont pas été soulevées théoriquement, elles ont été vécues pendant la Révolution. Et ça reste des questions très difficiles. Donc c'est complètement actuel. Moi, j'ai travaillé ici, la fabrique était dans la rue où nous sommes là. Ou 15.
Rue Saint-Roch, là ?
Oui. La maison d'édition La Fabrique, on était au 15, là. derrière l'échafaudage. Pendant 2-3 ans, on a été là. Au cinquième sans ascenseur. Et si à midi, on n'avait rien à faire, moi j'achetais un sandwich, j'allais aux Tuileries. C'est beau les Tuileries. C'est beau. Et puis, ce petit coin-là, avec l'église, les petits magasins accrochés à l'église, le passage Saint-Roch, c'est pas un coin entièrement pourri.
Il reste un esprit...
Oui. Très parisien. Très, très vieux parisien.
Paname. On t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc, Paname. Paname. Moi, c'est tes yeux. Moi, c'est ta peau. Que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, soleil a mis son pyjama, toi tu t'allumes et dans tes bas, y'a M'sieur Haussmann qui te fait du plat. Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout, quand toi et moi, on marchait vers. On ne savait quoi. Paname, il y a des noms de rues que l'on oublie. C'est dans ces rues qu'après minuit, tu me faisais voir ton petit Paris. Paname, c'est fou ce que tu peux faire causer. Mais les gens savent pas qui tu es. Ils vivent chez toi, mais te voient jamais. Paname, si tu souriais, j'aurais ton charme. Si tu pleurais, j'aurais tes larmes. Si on te frappait, je prendrais les armes. Paname, tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson. Et c'est pour ça que je crie ton nom. Paname, Paname.
Paname. Il y a une façon de dire Paname. On ne peut pas dire Paname, il faut dire Paname. Paname. Le mot qui disparaît, celui-là. On dit Paris. Aujourd'hui, on dit Paris dans la basse. J'y suis. Paris, pas perdu. André Breton disait, mais il n'y a pas de pas perdu, bien sûr. Perdu, mais perdu, foutu, n'est pas perdu, et qui ne serait pas perdu, vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas tout à fait. Alors on continue la balade avec Eric Hazan, qui quand même, de la banalité de la ville, de ce qui nous semble banal, dans la ville qu'on traverse, voilà, les rues, les immeubles, les monuments, des églises, des squares, etc. Voilà. Raconte, peut rester immobile au coin d'une rue et parler de toute l'histoire, mais bien au-delà même du quartier, bien au-delà même presque de la ville, du pays, et rejoindre les grandes idées, l'égalité, la démocratie, la représentation. Mais voilà maintenant place de la République. Il y a M. Haussmann qui te fait du plat, disait Léo Ferré dans cette chanson. Là, Haussmann a fait très très fort à place de la République, mais il n'est pas le seul parmi ceux qui ont donné à Paris son visage actuel. Il y a eu aussi un certain Pompidou qui a fait beaucoup et beaucoup trop, selon Eric Hazan. Mais on arrive place de la République.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. On va prendre des lilas.
Thank you.
Là, on a quitté le Paris aujourd'hui central et bourgeois et on commence à se diriger vers les confins de Paris.
Vers le nord et l'est, oui. Vers les arrondissements 18, 19, 20, les derniers arrondissements qui ont encore un côté populaire. La place de la République qui est une implantation très brutale, une implantation haussmannienne très brutale au cœur d'un quartier populaire avec une caserne de la garde républicaine. Et de là partait le boulevard Magenta vers Montmartre, la rue Turbigot vers le centre, le canal vers la Bastille. C'était un endroit où pouvaient partir des charges de cavalerie ou des canons dans toutes les directions. Donc c'était vraiment un quadrillage militaire de la ville, la place de la République.
L'idée d'Haussmann, c'était justement de raser ces petites rues.
Oui. Mais enfin, en dehors de l'île de la Cité, où il a vraiment tout démoli, et de cette implantation-là, les grandes percées haussmanniennes, au fond, elles n'ont pas complètement bouleversé les quartiers qu'elles traversaient. Si tu regardes, je sais pas, le boulevard de Sébastopol, disons que c'est la percée haussmannienne type, la grande percée nord-sud. Eh bien, ça a laissé subsister de part et d'autre la rue Saint-Denis, la rue Saint-Martin, la rue des Faubourgs, Saint-Martin, sans y toucher. Au fond, pour ce qui est des grands bouleversements de Paris, je pense que la période des années 60, De Gaulle, Malraux, Pompidou, ça a été un bouleversement plus profond qu'Haussmann. C'est là vraiment que les pauvres ont été chassés du centre. Ce qu'au fond, Haussmann n'avait pas réussi. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais c'était trop compliqué. Alors que là, par le jeu, non plus de la police, pas uniquement de la police, mais par le jeu de la spéculation immobilière, les promoteurs immobiliers, l'augmentation des loyers, les pauvres n'ont plus accès au centre de Paris. Donc, ils ont été éjectés vers la périphérie d'une façon beaucoup plus sûre, beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus, au fond, irrésistible que tous les efforts qui avaient été faits auparavant depuis le grand enfermement de 1657. Hein.
Qu'est-ce que c'était, ça, le grand enfermement ?
Sous Louis XIV, la décision a été prise. C'est l'époque où il y a eu un lieutenant de police à Paris, c'est-à-dire un préfet de police. Quoi. Il n'y en avait pas jusque-là. De débarrasser les rues de tous les clochards, les prostituées, les fous, le cours des miracles, tout ça. Et on a construit pour ça ce qui s'appelait l'hôpital général, c'est-à-dire on a construit pour ça la Salpêtrière essentiellement, mais aussi Bicêtre, et on a enfermé tout le monde là-dedans. Un jour, du mois de mai 1657, je ne me rappelle plus le jour, enfin c'est... C'est très bien décrit par Michel Foucault dans Histoire de la folie, à l'âge classique. Je crois que c'est Louis XIV et le lieutenant, enfin l'Araignée, qui a une rue à Paris d'ailleurs, au Hall, le premier lieutenant de police. Je crois que c'est vraiment de ce moment-là que date la systématisation. Parce qu'avant, les cours des miracles, ils ne pouvaient rien. Hein. Ils arrivaient sur les cours des miracles, ils se faisaient... On leur envoyait des pierres. C'était... Il n'y avait pas de force publique à cette époque. Paris était dans le noir la nuit. Il y avait trois points éclairés dans Paris la nuit dans ces années-là, disons au début, avant le XVIIe siècle. Quoi. Trois points. La lanterne des morts au cimetière des Innocents. Une grande lanterne qui était devant le Grand Châtelet, qui était le tribunal, pour pas que les malandrins quand même se assassinent les gens devant la porte du tribunal. Et puis une lanterne qui était sur la Seine à hauteur de la tour de Nesle pour signaler aux mariniers qu'ils entraient dans Paris. Donc il y avait trois points qui étaient éclairés toute la nuit. Et le reste du temps, Paris était dans le noir. Alors comment voulez-vous faire du contrôle de population dans le noir ? Donc l'éclairage public a commencé à cette époque-là. C'est les chandelles. Lanterne à huile, c'est au XVIIIe siècle. C'était déjà un progrès. Puis ensuite, il y a eu le gaz. Mais ça, c'est des XIXe siècle. Là, on va passer devant le 30 mars 1814, la bataille de Paris. Quand Marmont dit qu'il se retrouvait en train d'être encerclé par les Russes, et il était obligé de se frayer ce passage à la pointe de l'épée.
Et ce que vous racontez dans votre dernier livre, dans Paris sous tension, c'est le premier chapitre, on va dire, du livre. Et c'est absolument incroyable.
C'est un épisode tout à fait oublié. Dans les livres d'histoire les plus détaillés sur l'Empire, ça fait 5 lignes. Dans les livres d'histoire, on n'insiste jamais sur les moments où la bourgeoisie préfère passer à l'ennemi plutôt que de risquer une insurrection populaire. Surtout, la capitulation a été décidée politiquement, elle n'était pas du tout obligée. Il aurait suffi qu'il tienne un petit peu, 24 heures de plus, et ça donnait à Napoléon la possibilité de revenir sur Paris, dont il s'était écarté. Et tout aurait pu changer. Mais les gens qui avaient joué sur la rente à la baisse n'avaient pas du tout envie de voir une insurrection populaire, parce qu'il aurait fallu donner des armes au peuple qui en demandait. Parce que le peuple, il demandait des armes. Enfin, les ouvriers. Les ouvriers du bâtiment. Il n'y avait pas beaucoup d'usines à l'époque. Il y avait des ouvriers du bâtiment parce qu'on construisait beaucoup à Paris à ce moment-là. Les ouvriers du bâtiment demandaient des fusils.
Ils sont rendus aux Tuileries, ça, demander des fusils.
Place Vendôme. Au ministère de la Guerre. On leur a dit, il n'y a pas de fusils. Ce qui n'était pas vrai, il y en avait. Mais on ne voulait pas leur en donner. C'est pas qu'il tenait tellement à Napoléon. Parce que l'Empire était très dur pour la classe pour les ouvriers. Très dur. Des lois épouvantables. Très dur. Mais...
C'était le moment du livret ouvrier.
Oui. Mais le retour des Bourbons dans les fourgons des Alliés, c'était la fin de la Révolution. Et de fait, ça a été vrai. Quoi. D'une certaine manière, l'Empire... Régime affreux. Et maintenait une partie des acquis révolutionnaires. Et là, on sentait bien que ça allait être fini. Et je pense que c'est pour ça qu'ils demandaient des fusils. Parce que entre Robespierre 93 et 1814, il y a 20 ans, donc ceux qui avaient 20 ans, ils en avaient 40, c'était pas des... On a l'impression que ces deux époques qui sont très, très lointaines, en fait, non. Et beaucoup de ces gens-là, ils avaient vécu, c'est des anciens sans-culottes.
Hein. Est-ce qu'ils n'avaient pas peur aussi que si on donnait des armes au peuple, ils risquaient de se retourner contre...
Si, bien sûr. Comme pendant le siège de Paris en 71. Le siège de Paris en 71, la bourgeoisie parisienne, la bourgeoisie au pouvoir, était hantée par l'insurrection populaire. Les Prussiens, c'était pas grave. Surtout pas d'insurrection populaire. Parce que ça, capituler avec les Prussiens, bon, on sait bien où ça va. Donc si le peuple se soulève, on sait pas où on va. Il le dit très clairement, Savary, qui était ministre de la police, il le dit ouvertement. Il dit, Dieu sait ce qui s'en passait si on avait armé le peuple. Tous les dangers étaient possibles. Là, vous pouvez nous cracher, là où vous voulez.
Si c'est bon.
Là, vous pouvez nous mettre...
Merci.
Merci à vous.
Bonne journée.
Là, on a traversé tout Paris.
On va arriver à Porte des Lilas.
Le poète en guenille.
Qui est en travaux.
Les rôdeurs et les filles.
C'est-à-dire que c'est un endroit où...
Les chansons d'Aristide Bruand.
Où le périphérique a été enterré.
les héros populaires, les refrains d'avant-guerre sont bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit et l'on se demande aujourd'hui que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières. C'était le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Où sont donc Julo, Lily, Casque d'or et petit Louis le costaud, si célèbre alors? Que sont devenues les fortifications et tous les héros des chansons?
Voilà, Fréhel qui regrette les fortifs. J'ai l'impression que les Parisiens ont toujours regretté le Paris d'avance sans le connaître. Mais c'est toujours mieux avant. Voilà, c'était toujours mieux avant. Il y a trois directions dans lesquelles c'est toujours mieux. C'est soit ailleurs, soit dans le futur, soit avant. Alors l'ailleurs, bon, en ce moment, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Le futur, ça, on sait plus du tout ce que c'est. Mais alors le passé, c'était bien. Avant, c'était mieux. Et c'est pas le point de vue d'Éric Azancy, en partie, bien sûr. Il est pas étanche à la nostalgie, Éric Azancy. Mais, dans cette ville de Paris qu'il connaît si bien, ce piéton de Paris, eh bien, il voit autre chose que seulement la nostalgie. Il voit un aujourd'hui et il voit un futur même et un devenir, même si les signes sont bien ténus.
Cet endroit, il est intéressant aujourd'hui parce que justement, le périphérique est enterré. Et par conséquent, c'est un endroit pilote pour refaire la jonction entre Paris et la banlieue. Et quand on voit ça, on se dit oula, on n'y est pas encore. Quoi. Parce que d'abord, on voit bien que l'espace entre, la fin de Paris, on peut la mettre là où nous sommes, c'est-à-dire au bord du boulevard Mortier, avec devant nous les HBM des années 20, c'est les ancêtres des HLM.
Là, c'est bâtiments rouges.
C'est des bâtiments des années 20, 1920, qui ont été construits sur la zone, sur les anciennes fortifications. Puisque après la guerre de 14, enfin en 18, on considérait que l'armée française était désormais invincible et qu'il n'était plus nécessaire qu'il y ait autour de Paris des murs, des murailles fortifiées. Donc on a rasé les fortifs. Et à la place, on a construit tout autour de Paris une ceinture de. On appelait ça HBM à l'époque, habitation à bon marché. Donc on peut considérer que la fin de Paris, elle est là. On voit bien que la distance, le trou, le manque, le vide entre Paris et de l'autre côté les Lilas est extrêmement large. Ça fait quoi? Ça fait bien, moi je dirais 300 mètres. Donc, pour combler ce vide, car au fond, si on parle Grand Paris, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de combler le vide entre Paris et la banlieue. Pour combler ce vide, il aurait fallu tricoter de l'espace urbain finalement, tricoter de la ville. Et ça, c'est pas commode. Les urbanistes, les architectes actuels ne savent pas faire ça. On voit bien quand ils essayent de faire de la ville, on voit bien ce qu'ils font du côté du 13e, du côté de la fameuse Bibliothèque de France. C'est des grandes avenues glaciales. Rien que de les traverser, on risque d'attraper un rhume tellement il y a de vent. Tricoter de l'espace urbain dans ce vide-là où nous sommes, ça veut dire des boulangeries, ça veut dire des marchands de tabac, ça veut dire des kiosques à journaux, ça veut dire des salles de concert. On va faire un programme urbain. Alors, au lieu de ça, on fait des espaces verts bidons.
Ça, là, l'espèce de verdure qu'on voit derrière des palissades, c'est un espace vert.
Oui. Ce qui est une manière de botter en touche. C'est une démission de la pensée, une démission de l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, on recrée une barrière. Elle est différente. C'est pas la même. Au lieu que ça soit une voie rapide avec des bagnoles, ça, c'est l'espace vert, mais c'est encore une barrière qu'on crée là. Les deux villes, la ville et la banlieue se confrontent. Elles sont pas réunies du tout par ce qu'on est en train de faire là. Donc c'est le signe de l'échec de ce que devrait être le Grand Paris. Il faut vouloir vraiment faire cette jonction, parce que bien sûr c'est politique. Ceux qui parlent tout le temps du Grand Paris, c'est les mêmes qui, comme on le disait dans le taxi tout à l'heure, c'est les mêmes qui depuis le XVIIe siècle poussent les pauvres dehors. Et là, tous les gens qui habitent là, qui sont des pauvres, des noirs et des arabes, qu'on a eu tellement de mal à chasser de Paris, ça a pris tellement de temps. Pourquoi on va refaire le Grand Paris pour les récupérer alors qu'on a eu tant de mal à les mettre dehors? Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est tout à fait normal que le Grand Paris soit une blague. Et quand tu regardes les plans du Grand Paris aujourd'hui, le plan de Sarkozy, lui-même, ça ressemble à une centrifugeuse. C'est fait pour faire tourner les pauvres autour de Paris. Pour que les femmes qui ramènent le caddie le soir, elles puissent plus facilement aller de chez elles à la Courneuve à un carrefour à Villejuif. C'est une horreur. C'est un cynisme incroyable. Enfin, l'indignation est inutile. Hein. L'indignation, c'est pas un sentiment politique, l'indignation. C'est trop facile, l'indignation. Il faut simplement faire ce qu'il faut pour que ça ne survienne pas. Du côté des beaux quartiers, il n'y a pas de problème. La jonction est faite depuis longtemps. On passe du 17e à Neuilly sans s'en apercevoir. Périphérique est enterré depuis longtemps. D'ailleurs, il n'a jamais été très apparent. Neuilly, le Valois-Perret, même ici les Moulineaux, c'est déjà Paris. C'est déjà le Grand Paris. Non, c'est du côté des pauvres, des noirs, des arabes, que la question se pose. Ceux-là, il faut les maintenir dehors.
Justement, comment on va faire alors?
Il va se passer pour les banlieues de la première couronne. Je pense à déjà Montreuil. Demain, les Lilas. Demain, Aubervilliers, Saint-Denis. Petit à petit, les loyers vont monter. On va là aussi faire de l'épuration ethnique. Et à ce moment-là, la frontière, elle passera entre les Lilas et Romainville. C'est-à-dire qu'on les aura repoussés, les pauvres, un cran plus loin. Un peu de la manière, si tu veux, que le rideau de fer est tombé. Oui. Mais on l'a déplacé un peu plus loin. C'est le rideau de fer immatériel qui entoure l'espace Schengen. Ça va être pareil. C'est pour ça qu'il est important que l'insurrection qui vient soit victorieuse. Parce que tant que tout ça restera aux mains de promoteurs, de sociétés civiles immobilières, de sociétés d'économie mixte, tout ça, on aura ça. Ce merdier au cœur duquel nous nous trouvons là, ici.
Ça, c'est tout sauf une ville.
Oui, c'est tout sauf une ville.
Voilà, merci à Eric Hazan. Je rappelle le titre de ses bouquins sur Paris, l'invention de Paris. Il n'y a pas de pas perdu aux éditions du Seuil. Et puis le plus récent, Paris sous tension, aux éditions de La Fabrique. C'était un reportage de Charlotte Perry. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site de labas.org où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Élise Christophe et Pierrick Mossigny, Bertrand Chompton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assisté de Marina Touillet, et Grégory Salomonovitch, quant à lui, est le chef du répondeur. Il attend vos messages au numéro suivant, 01 56 40 37 37.
Paris, quand tu es debout, quand tu es debout, moi je t'aime encore.
France Inter présente la rétrospective Nanni Moretti à la Cinémathèque française du 6 au 28 septembre. À l'occasion de la sortie d'Abemus Papam, le nouveau film de Nanni Moretti, la Cinémathèque française rend hommage à l'un des rares successeurs de la grande comédie transalpine. Le réalisateur d'April, Journal intime ou La chambre du fils, viendra dialoguer avec le public le 7 septembre à la Cinémathèque française. Retrouvez la rétrospective Nanni Moretti dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire de l'Université d'été Alzheimer, Éthique et Société, les 12 et 13 septembre à Aix-en-Provence. Dans le cadre du plan Alzheimer, l'Université d'été réunira ceux qui sont engagés au quotidien pour apporter des réponses toujours plus humaines et efficaces à une réalité qui engage la société tout entière. Retrouvez l'Université d'été Alzheimer, Éthique et Société dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Voilà, il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse où j'y suis. On sera avec l'équipe du Monde Diplomatique. On se retrouvera chaque mois ainsi et ça dure depuis bien longtemps, vous le savez. Donc demain, 15h pour la basse où j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
C'est au président du tribunal de trancher maintenant dans le procès Chirac sur les emplois fictifs à la mairie de Paris dans les années 90. Lors de son ouverture en début d'après-midi, le parquet a accepté l'excuse médicale présentée par les avocats de Jacques Chirac. Une expertise selon laquelle l'ancien chef de l'État n'est pas en état de participer à son procès. Les débats doivent durer 3 semaines. Pas question d'en rester là pour Olivier Besancenot et 10 de ses collègues postiers. Ils ont décidé cet après-midi de faire appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre. Ils ont été condamnés à 1 500 euros d'amende avec sursis pour l'occupation des locaux de la Poste de Nanterre en mai 2010 et la séquestration de 2 cadres. Reportage à la sortie du tribunal d'Anne Lamotte.
Scandaleux, dégueulasse, injuste. Voilà ce qu'on entendait parmi les dizaines de syndicalistes venus soutenir Olivier Besancenot et ses camarades cet après-midi à Nanterre. Olivier Besancenot condamné donc, mais pas désespéré. En sortant de la salle d'audience, l'ex-leader du NPA prend le micro comme un air de manif devant le palais de justice.
Et j'avais l'espoir d'une relaxe pour tous. C'est pas le cas pour 11 d'entre nous. Mais j'avais l'espoir que cette relaxe, elle nous permettrait que les masques tombent une bonne fois pour toutes. Et chacun à l'extérieur puisse regarder le vrai visage de la direction de la Poste. Elle qui est capable de calomnier, qui est capable de réprimer. Et nous, on n'oubliera rien de tout ça. Et tous ceux qui pensent nous intimider, nous impressionner, n'arriveront à rien du tout. Et c'est en conscience que je vous dis que le combat, il va continuer. Et on continuera à stopper les restructurations, les réorganisations. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été là.
De son côté, l'avocat de la Poste, lui, déclare tout simplement être satisfait.
Les dirigeants des banques européennes sont réunis jusqu'à demain à Francfort en Allemagne. Une conférence de 2 jours axée sur la perspective de la crise de la dette dans la zone euro. Épreuve aujourd'hui que les marchés doutent. La plupart des valeurs bancaires et dans la foulée, elles entraînent aussi la chute des places européennes. Particulièrement touchée, la Société Générale qui dévisse de plus de 7%. La Bourse de Paris recule, elle, actuellement de 5%. De son côté, la Grèce a confirmé qu'elle allait se conformer à son programme d'austérité budgétaire. Athènes attend maintenant le versement de la 6e tranche d'aide internationale prévu pour ce mois-ci. Les banquiers suisses demandent aujourd'hui à ce qu'une solution soit trouvée dans le litige qui l'oppose aux États-Unis. Washington a fixé un ultimatum à Berne pour transmettre les données bancaires des fraudeurs du fisc. Les États-Unis ont donné jusqu'à mardi. Une partie de la famille en Algérie la semaine dernière et les proches au Niger. On l'apprend aujourd'hui, une dizaine de proches de Muammar Kadhafi sont entrés hier à Agadez. Parmi elles, Mansour Do, le chef des brigades sécuritaires de Muammar Kadhafi. En France, les policiers municipaux auront désormais accès aux fichiers des voitures volées. Le ministère de l'Intérieur a publié aujourd'hui l'arrêté au journal officiel. Jusqu'ici, seuls les policiers et les gendarmes y avaient accès. Les joueurs de foot italiens lèvent la grève. Ils sont parvenus à un accord aujourd'hui, accord transitoire avec les présidents de clubs. L'accord prévoit de discuter jusqu'à la fin de la saison de la nouvelle convention collective. Le championnat d'Italie va donc pouvoir commencer dès vendredi, mais il commencera par la 2e journée du championnat, 15h03 sur Inter.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Miossec.
Il n'y a rien de plus beau que le bal des automobiles.
Lise.
Dans la nuit, rien ne file.
Et Deportivo.
Ils sont tous plus ou moins ivres et débutants.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter.
La différence.
Et d'ici là, vous avez rendez-vous avec Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon. Bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Voici des disques nouveaux, il y en a toujours, quoi qu'on dise. Là, c'est Louis Spohr qui est en vedette. Louis Spohr ou Ludwig, comme vous voudrez. Mais enfin, ses parents l'avaient appelé Louis, c'était en hommage à la culture française, donc on va rester comme ça. Louis, né à Brunswick en 1784, compositeur, bien sûr, puisqu'on va entendre de ses œuvres. Et une grande partie de cette belle symphonie intitulée « Historique ». Et il a été violoniste. Il a été un chef d'orchestre, un des tout premiers dans le sens moderne du terme. Et puis, il a été proche de Beethoven, qu'il n'a pas compris tout de suite. Il a fini par, finalement, englober le génie du maître, mais tardivement. Il a traîné les pieds pour comprendre que Beethoven était quelqu'un de très, très important, évidemment, certainement supérieur en tant que créateur. C'est peut-être ça qui a bloqué l'intellect de Louis Spohr. Néanmoins, lui, il a voulu composer dans les styles qu'il avait précédés, les styles des époques d'avant, et dans cette sixième symphonie historique qu'on va entendre, qui a été joué à Londres et sifflé d'ailleurs, ben il essaye d'abord de faire dans le genre de Bach ou de Handel. Il titre le premier mouvement vers 1720, Allegro Moderato. Alors les critiques ont braillé, on va le dire, ont écrit des choses tout à fait désagréables, parce que ces messieurs ont pensé que Louis Spohr voulait surpasser les maîtres du passé, et qu'il voulait se moquer d'eux en quelque sorte, et montrer qu'il avait une sorte de connaissance supérieure de tous les styles, et qu'il pouvait en plus écrire de manière égale ou supérieure à Bach, Handel, Haydn ou Mozart. Allegro moderato, le premier mouvement de la sixième symphonie dite historique de Louis Spohr. Dans le style de Bach et de Handel, vers 1720, l'Allegro moderato, c'était la conclusion, de ce premier mouvement de la sixième symphonie dite historique de Louis Spohr, interprété par le NDR Radio Philharmonie, donc l'orchestre de radio du nord de l'Allemagne, dirigé par Howard Griffiths. Bon, on va aller vers le deuxième mouvement, et là, l'auteur nous propose d'imaginer, peut-être, de convoquer l'époque de Haydn et de Mozart vers 1780, l'Arghetto.